Auditeurs, auditrices, bonsoir, nous sommes le lundi 23 octobre. Nous sommes le lundi 23 octobre 2023, il est 20h et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition dont joue la prolongation, hein, votre émission sportive préférée du lundi soir, peut-être même plus que le lundi soir, mais on va commencer par ça. Le football a enfin repris ses droits après une passionnante trêve internationale. Je plaisante bien sûr, vous savez à quel point on aime la trêve internationale ici. Des fenêtres internationales qui sont de plus en plus ennuyeuses, surtout avec le nouveau système de qualification à l'Euro, qui permet aux équipes qui ne réussiraient pas une bonne campagne de qualification, mais qui auraient réussi une campagne de Ligue des Nations acceptable, de pouvoir quand même jouer les barrages pour se qualifier. Évidemment, ça, on met ça, tout ça de côté parce que la semaine dernière, il s'est passé des choses bien plus graves qui vont bien au-delà d'une qualification et d'un barrage. On va en parler un petit peu avec notamment un de nos chroniqueurs qui était sur place lors du match et qui va nous en parler. Avant ça, je vais vous présenter ceux qui sont autour de moi aujourd'hui. Pardon. Le premier, vous le reconnaissez à son hymne, au jingle qui l'accompagne. Il va nous apporter son sens de l'analyse de ce qui se passe sur et en dehors du terrain. Il est fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Il s'agit bien sûr d'Alexandre Demeter. Salut Alex, comment vas-tu ?
Bonsoir à tous, bonsoir Sam. Ça va super, on reprend nos droits. Exactement. Et comme tu dis, oui, après un lundi un peu beaucoup chaotique la semaine dernière.
Voilà, ça fait du... Ça va faire du bien de parler football et uniquement football. On va parler toi, moi, mais également avec un supporter déçu. Mais est-ce que ça n'est pas l'habitude d'être déçu, hein. C'est un supporter mauve, mais il reste un fervent. Fervent supporter, il est toujours derrière son équipe. Il a vécu un dimanche contrasté, on va dire. Il s'agit bien sûr de notre mauve numéro 1, Henri Daniel. Salut Henri, comment vas-tu ?
Bonjour Sam, bonjour. Il est toujours deuxième, voyons le positif.
Exactement, voyons le positif.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas été deuxième.
Exactement, il faut avoir toujours le verre à moitié
plein. C'est pas vrai, l'année passée, vous étiez deuxième de la colonne de droite.
Je crois que c'est méchant.
Oh, un petit pic ne fait jamais vraiment de mal. Alors au programme, on va bien sûr revenir sur la journée de Jupiler Pro League qui s'est déroulée ce week-end et on va parler également Coupe d'Europe puisque on jouera dès demain la troisième journée des phases de groupe, tout d'abord en Ligue des Champions et puis en C3 et C4 en Ligue Europa et en Conference League. Et puis on aura le droit à la minute Sportimize, on parlera marketing sportif sans doute avec Alex. Alex, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ou est-ce que tu ne veux pas dévoiler le contenu de cette minute?
Un petit teasing. Vous connaissez ma passion pour les maillots et je me suis offert un maillot de William Vainqueur de l'AS Rome il y a quelques semaines, d'un match en plus où j'avais été Bologne AS Rome en novembre 2015. Et par hasard, je suis tombé sur une info intéressante concernant les maillots des deux équipes romaines. Donc on parlera de ça tout à l'heure.
Très bien. Eh bien, ça va être passionnant, j'en suis certain. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vous l'ai dit, on va parler quelques instants du match de lundi dernier, Belgique-Suède. Et donc pour cause, Henri, tu étais au stade du Roi Baudouin pour assister à la rencontre. Et donc j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment s'est déroulée cette soirée particulière. On le rappelle, deux supporters suédois ont été tués au cours d'un attentat en début de soirée dans le centre de Bruxelles, des faits qui ont eu lieu vers 19h15. Alors justement, à quelle heure es-tu arrivé au stade et quelle était ta connaissance à ce moment-là de ce qui s'était passé ?
Je suis arrivé en métro au stade à 20h15 par là, entre 20h15 et 20h30. J'ai dit qu'il y avait un gros dispositif de sécurité, ce qui m'avait un peu étonné parce que j'étais au courant de rien. À ce moment-là, pourtant, les faits avaient déjà eu lieu, bien une heure avant, je pense, une heure avant le match.
Oui, presque une heure avant le match. Enfin, moi, je n'y étais pas, mais je reçois les notifications
de divers
médias. Et quelques minutes avant 8 heures, c'est sorti, officiellement.
J'allais dire, dans le métro, j'ai pas trop regardé mon téléphone, et puis on passe différents... Donc il y a les portiques de sécurité, et puis après il y a une première fouille par des stewards, puis une deuxième fouille par la police, j'étais étonné. En général, c'est que les stewards.
Ah oui.
Okay. Deux fois, mais à un mètre de distance, quoi.
Ah oui, il y a eu un dispositif, dispositif renforcé.
Il y avait...
Et le match...
Il y a pas de, le match démarre.
Ouais.
Sans retard, donc rien. On commence à avoir des bruissements dans la tribune, mais on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il y a le goal des Suédois d'abord, donc je pensais que c'était un peu ça. Puis j'ai commencé à regarder mon téléphone. On voit comme un fait divers, en fait. Au départ, on entend le décès de deux supporters suédois.
Sans comprendre tout de suite, peut-être.
Ça, à Molenbeek, ils disent toujours que c'est des faits divers. Hein.
Oui, c'est...
Enfin, ça n'a rien à voir avec le foot, évidemment, mais...
Et donc, le match se déroule, la mi-temps est sifflée sur le score de 1-1, donc on est tous un peu... Et puis là, on discute. Puis le match, on voit les remplaçants belges s'entraînent s'échauffer. Je vois la pelouse qui se fait arroser.
Donc, tout ça prélude à une reprise normale.
Ça commence à durer. Ouais. On voit que les officiels ne reviennent pas. Parce que j'étais à la tribune en face de la tribune officielle, où on voit les officiels qui partent à la mi-temps sûrement prendre un verre dans les salons du Ezel. Et on ne les voit pas revenir. Et puis là, on voit les remplaçants belges rentrer au vestiaire. Et puis rien. On a eu une info, je crois. Donc le match a commencé à 45, donc à 9h30, c'était la mi-temps.
Ouais.
Je crois qu'on a eu une info vers 10h, disant que des événements s'étaient passés.
Ça faisait déjà 10 minutes après l'heure prévue pour la reprise.
Et donc, la seule chose qui a été annoncée, c'était qu'il y avait des événements, que du coup, le match ne reprendrait pas.
Et à ce moment-là, l'ambiance, j'imagine, effectivement, comme le disait Alex, il y a les notifs qui arrivent sur les téléphones, tout le monde était au courant.
Le bruit avait circulé, et il y avait une atmosphère assez calme, en fait.
D'accord.
Un peu chaos. Après, on commence à avoir dans les notifications que c'est l'équipe de Suède qui ne veut pas remonter sur le terrain.
Ok.
Enfin, qui a demandé de ne pas remonter, c'est ça. Chose qu'on peut comprendre, mais dans le stade, on n'a aucune information, vraiment. Ils ont parlé de faits divers,
d'événements
dans le centre de Bruxelles. Après, tous les quarts d'heure, ils nous remerciaient de notre calme, en disant que de ne pas s'inquiéter, parce que la rumeur courait aussi que, comme on n'avait pas attrapé le terroriste, ils pouvaient avoir pris la direction du stade, puisqu'ils cherchaient à...
Ouais, c'était...
Ils cherchaient à attaquer des Suédois qui étaient rassemblés là. Donc on a eu plusieurs fois des annonces en français, en anglais, en néerlandais et en suédois, qui nous disait de rester dans le stade, que c'est l'endroit le plus sûr de Bruxelles.
Certainement,
parce que c'était complètement verrouillé. Donc, on pouvait ni sortir, ni rentrer. Et les gens sont restés plutôt calmes à leur place. Il y a eu des applaudissements. On a créé Sweden. Il y a eu des hola qui s'en sont faites. Mais le temps passant, on entend des infos, simplement. On voulait juste savoir quand est-ce qu'on allait sortir. Donc, ils nous ont dit, à 11h15, ils nous ont dit, on va sortir tribune par tribune, on vous tiendra au courant.
D'accord.
Non, à 11h, pardon, ils ont fait une annonce en disant qu'ils attendaient les décisions du Conseil de sécurité qui se réunissaient en urgence. Et ils nous ont dit, après, on sortirait... À 11h15, ils ont dit qu'on sortirait tribune par tribune, mais ça a commencé encore à minuit ou un quart. Par contre, la première tribune est sortie à minuit ou un quart. Par contre, il n'y a aucune info sur le métro, donc le métro était fermé. Mais il n'y a aucune info pour les gens qui devaient prendre un métro.
Ouais, ça, je crois que ça a été compliqué pour eux. Et la sortie du parking, visiblement, qui a été très longue.
Tu as fait comment d'ailleurs? Parce qu'il y avait des bus qui ont été affrétés, j'ai vu.
Oui, mais il fallait y accéder, il fallait le savoir, il n'y a pas eu d'info. Ah, oui. Parce que, pour qui connaît un peu le SL, on ne sort pas tribune par tribune, mais finalement, on se retrouve canalisé dans le même entonnoir, en fait.
Tu étais en tribune 3, donc tu te retrouves avec les supporters belges de tribune 4, tribune 3 et tribune 2, côté Kinépolis, pour ne pas les citer, et pour sortir là.
Ils nous ont orientés vers l'autre côté, en fait. Mm-hmm. On était canalisés donc vers la station de métro, et puis vers l'avenue Oba.
Ah oui.
Et puis pour envoyer tout le monde vers le parking C.
Oui.
Et donc évacuation du stade qui s'est terminée au-delà d'une heure du matin.
Il n'y a eu aucun moment de panique dans le stade.
C'est une bonne chose.
Il y a eu... C'est évidemment, quand 35 000 personnes sortent, même si on les canalise, ça fait quand même du monde. Et ça piétine un petit peu. Mais c'est assez impressionnant quand même de passer entre des Robocop et des drones qui vous passent sur la tête.
Ouais, ouais.
Une moche atmosphère.
Ouais, effectivement. Et on, ben
et la sortie du parking, c'était...
Ça a été chaotique aussi, j'imagine.
Moi, heureusement, j'étais avec des amis. Donc j'ai rejoint des amis qui étaient en voiture, qui m'ont pris en voiture. Et ils m'ont ramené à ma voiture qui était sur un parking en ville.
Et ça a été un peu long.
Je suis chez moi à 2h du matin.
Oui, 2h du matin. Et donc, le match n'a pas repris. Et bien sûr, et l'équipe de Belgique n'a pas souhaité faire rejouer le match. On l'a entendu, ça leur sera peut-être défavorable au cas où, puisqu'ils pouvaient espérer en cas de victoire.
Je pense que c'est tout à l'honneur de la fédération.
Exactement, voilà.
Ça aurait été déplacé.
D'un point de vue logistique aussi. Hein.
Ouais. D'ailleurs, le règlement, si j'ai bien compris, le règlement aurait voulu que le match reprenne d'où il s'était arrêté le lendemain.
Ouais.
Le mardi du...
Bon, effectivement, comme tu le dis, le niveau logistique...
On était au niveau 4 de sécurité attentat, donc c'était juste impossible d'organiser un match de foot.
Disons que le règlement UEFA stipule plusieurs trucs, et il n'y a rien qui a suivi ce règlement, ni la reprise du match, parce que normalement, quand on décide que le match ne pourra pas continuer pour des intempéries, pour une coupure d'électricité, pour diverses raisons, normalement, on a une demi-heure pour continuer. Sinon, c'est l'équipe qui est en tort, qui se prend un forfait. En l'occurrence, en tort, entre guillemets, la Suède. Donc, la Belgique, la fédération avait bloqué ça aussi. Et l'UEFA a fermé les yeux, j'ai envie de dire, sur tout son règlement autour de ce match et la suite du résultat. Parce qu'on sait très bien, la Suède est éliminée, l'Autriche était qualifiée à ce moment-là, et elle l'est toujours. Donc, d'un point de vue sportif, il n'y a aucun changement. Par contre, si c'est Suède 12 et Autriche 12 points et qu'ils bataillent encore pour se qualifier tous les deux, je peux t'assurer que le match, il continue.
Ils ont mis 2 jours quand même à se décider. Hein.
Ouais,
oui, mais ça, c'est la procédure normale aussi. Donc,
effectivement, c'est tout à l'honneur de la Fédération belge d'en être resté là et de ne pas avoir exigé quoi que ce soit. C'est effectivement encore un soir malheureux, heureusement.
Alors, il y a quand même un geste qui était un peu, je trouve, rigolo. Donc, on a vu qu'un demi-match. Donc, du coup, ils ont proposé à tous les gens qui avaient un billet pour le match de payer à 50% le billet d'entrée pour le match amical contre la Serbie du mois de novembre.
Et ben,
c'est un petit geste.
Et tu vas y aller ?
Pas sûr. Pas sûr.
Pas sûr.
Bon. Déjà un match avec on en parlera pas quand on parlera foot, mais déjà le match contre la Suède qui venait juste après la qualification officielle, on avait un peu l'impression qu'il s'est arrivé comme un match amical.
Mais tu avais quand même encore ce besoin de gagner pour terminer dans les têtes de série. Donc, ce score de 1-1 qui reste 1-1 conjugué au match nul de la Hongrie, finalement, permet à la Belgique d'être tête de série, sauf grosse catastrophe.
Voilà.
Contre l'Azerbaïdjan, permet à la Belgique d'être tête de série, quoi qu'il arrive. Mais...
Voilà, donc
il y avait encore un petit enjeu.
Mais la composition ne le montrait pas, en tout cas, la composition de Tedesco. Après,
je ne sais pas.
Le démarre, enfin bon, je ne sais pas.
Ouais, tu veux...
Bah, il nous a fait une masterclass en Autriche jusqu'au 3-0.
Ouais. Mais j'étais étonné de ne pas voir de coups et Lukaku commencer le match, par exemple.
Ouais, il a fait...
Après, ça arrive qu'il y ait des accords avec des clubs aussi, que le joueur est sélectionné, mais qu'il ne joue qu'un des deux matchs. Ça arrive aussi souvent.
Possible.
Et là, sans doute, effectivement, le fait que la qualification soit d'ores et déjà assurée fait qu'on met moins de pression sur le...
Oui, il doit tester des autres joueurs aussi dans certaines positions, parce que tout le monde est là, l'Euro arrive, il faut faire quelque chose à l'Euro. Oui, mais si tu à chaque fois, t'es même 11 joueurs ou t'es même 14 de base presque... Tu ne vas jamais tester de nouveaux joueurs, de nouvelles tactiques,
là,
de nouvelles animations.
Et alors justement, sur cette feuille, j'ai décrié un petit peu la trêve, la fenêtre internationale. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette trêve internationale côté Diable Rouge? La qualification est assurée, mais est-ce qu'il y a des déceptions
Il y a un manque de concentration.
Ouais.
Mais il a l'air d'avoir un système en tête qui est censé être un plan B, mais qu'il essaie d'utiliser un plan A, qui ne fonctionne pas, je trouve.
Ouais, ils ont tous des plans A, B, C, D, de toute façon. Mais...
Il a insisté sur cette tactique que je ne trouvais pas efficace, et en Autriche, et qu'il a quand même réinstauré avec 4 défenseurs.
Ouais, en défense, justement, Vertonghen...
Face, je trouve un peu juste.
Oui, ou de face, ouais.
Avec face, tu ne vas jamais être en finale de l'Euro. Hein.
Non, je pense que...
Arthur Théâtre.
Non, est-ce bien. Quelle option il a ?
Pour moi, Arthur Théâtre est un des leaders.
Moi aussi.
Et il a le potentiel pour devenir encore meilleur dans cette équipe. Hein, donc, c'est pas Théâtre qu'on doit décrire, même s'il fait des flushs de temps en temps. Mais il y a beaucoup de joueurs d'un même niveau inférieur au précédent.
Ouais. Je vois. Alors justement, là, on va parler un instant. On va rester là-dessus. Thibaut Courtois, c'est en suspens. De toute façon, il est blessé, donc
il
la question se passe
pas.
La question, voilà, c'est ce que je me demandais. Mignolet a pris sa retraite internationale. Là, il y en a deux qui se tirent la bourre plutôt entre
Castells
et Mats Cels.
Normalement, c'est Castells qui a.
Ouais, c'est Cels qui a joué le match contre la.
Ouais, parce
la
que Castells s'est blessé.
C'était blessé, ouais.
Faut savoir que
Castells.
Était
malade, je pense.
C'est l'éternel poissard de cette équipe.
C'est vrai.
Parce que dès qu'il a une occasion de jouer, le pauvre, il se blesse, il est malade, il a la tête qui tourne, il a perdu ses gants, enfin, il y a toujours quelque chose qui se passe et il ne sait pas jouer. Et pourtant, c'est un gardien avec énormément de talent, qui était derrière Courtois à Genk à l'époque et qui est vite parti en Allemagne pour faire carrière.
Il a une bonne presse en Allemagne.
Il a une très bonne presse en Allemagne. Ouais, je connais beaucoup de joueurs qui ont une bonne presse et qui finalement ne font rien chez les Diables. Mais ça a prouvé, mais après, moi, j'ai un petit faible pour Cels finalement qui est quand même. Toutes les semaines dans le but à Strasbourg
qui
font quand même de bons, qu'ils alternent le bon et le mauvais, mais qui lui, en tout cas, c'est très rare qu'un gardien soit souvent repris dans l'équipe du mois ou de la semaine. Et Cels en a déjà fait quelques fois partie.
Oui, oui, oui. Je le regardais puisqu'ils ont joué contre le Paris Saint-Germain. Ils ont pris 3 buts, mais il a été à la parade de nombreuses fois. Il a été c'est vraiment un gardien solide, comme tu le dis. Il est solide, il est constant dans ses performances. Après,
et sans mauvais jeu de mots sur son entraîneur qui vivra, vira.
Qui vivra, vira. Bravo.
Sans jeu de mots.
Allez, je vais quand même envoyer le coup d'envoi, même si on a déjà finalement démarré. Le coup d'envoi, et comme toutes les semaines, on a parlé Belgique. On va vous parler de notre Belge de la semaine. Et je vais te demander à toi, Alex, de commencer avec celui que tu as choisi comme Belge de la semaine.
Eh bien, j'ai opté pour le petit Léonie. C'est un jeune encore joueur, même s'il a passé la vingtaine, qui a très longtemps joué avec les réserves d'Anderlecht en championnat de réserve et en D1B, mais qui déjà là, j'entends par des personnes qui le connaissent du staff ou qui travaillent au club, c'était déjà un leader de cette équipe. Et il a mis énormément de temps à arriver en équipe première.
Ouais.
Mais en arrivant en équipe première, il a porté l'équipe première aussi. Et là, il se retrouve quand même avec 5 assists. Et c'est le premier Belge au classement des assists en Jupiler Pro League, après une bonne dizaine de matchs. Donc, chapeau. Parce que malgré son jeune âge, entre guillemets, il a quand même. Il gravite les échelons et finalement, il devient de mieux en mieux. Donc, chapeau. Parce que Flip, c'est sur le banc en attendant. Donc,
on va reparler de lui, bien sûr, puisqu'il a joué. Lors du match du Classico du Standard Anderlecht.
On va en parler
justement. Alors à toi Henri, qui as-tu choisi comme Belge de la semaine ?
Mais comme Alex a pris un Anderlecht, moi j'ai pris un ancien Brugeois. J'ai pris Charles de Ketelaar.
Alors pourquoi ?
Pourquoi ? Tout simplement parce que j'étais au stade, comme vous l'avez entendu, et j'avais envie de parler de football. Et donc dans cette première mi-temps, dans la composition de l'équipe, j'étais surpris de le voir, honnêtement. Mais il a vraiment tiré son épingle du jeu, je trouvais qu'il avait des touches de balle qui étaient intelligentes, des déplacements intelligents, une technique qu'on connaissait. Mmh. C'est la première fois que je le voyais en vrai. Dans un match où, franchement, la première mi-temps était assez décevante, pour ne pas utiliser d'autres termes, mais je trouve qu'il a sorti son épingle du jeu, il a saisi sa chance, il a marqué des points, je trouve.
Et le changement de club lui a fait sans doute
du bien. Oui, c'est révélateur. C'est pas mal de se redresser assez vite après avoir une année de galère comme il est.
Mais souvent.
Mais est-ce qu'il a fait le bon choix de partir à Milan, je pense que...
C'est ça, le costume est parfois un peu grand.
Ou trop tôt,
trop grand. Et c'est vrai
il n'y avait pas de place tout simplement parce qu'il y avait déjà un noyau bien fourni au Milan.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'il a fait un bon choix de partir là-bas ?
Pourtant, il avait bien commencé. Il débutait, il était dans le 11 de base, ou en tout cas, il jouait ses minutes.
L'entraîneur le voulait.
Et après, il a commencé à tout rater. Et puis,
il
tu tombes dans un engrenage. Tu n'as pas prouvé énormément avant, et pour le pauvre Charles, il a eu beaucoup de mal à se redresser. Et là, à Bergame, tout a l'air d'être plus facile, il ressent énormément de confiance de son coach, et là, on revoit son talent.
Mais la différence, c'est qu'à Bergame, il vient du Milan AC. Quand il est arrivé au Milan AC, il venait de Bruges, il n'y a personne. Personne ne le
connaissait. C'est un pas en
arrière. Hein. Donc, personne ne le connaissait,
franchement. Dans les supporters, dans la presse italienne, personne ne le connaissait. Parce que là, il vient... À Bergame, au sein du club, c'est quand même un transfert qui vient du Milan AC. C'est plutôt prometteur. Jeune et talentueux et international. Donc.
Ouais, c'est vrai que c'est souvent un parcours, un circuit classique du jeune joueur qui performe dans son championnat, part dans un grand club où il stagne, enfin il ne réussit pas à faire son trou, et puis être prêté dans un club un petit peu moins huppé, où la pression est moins grande, permet de se relancer. On lui souhaite de pouvoir poursuivre de la meilleure des manières la carrière qu'il a brillamment débutée.
Voilà, c'était mon choix.
Il y a une autre théorie, c'est qu'il joue de nouveau en bleu et noir et que ça l'inspire beaucoup.
Ah, voilà.
On n'en sait pas plus.
Eh bien, écoute, on va parler d'une autre couleur. En ce qui me concerne, j'ai choisi Karl Hufkens, le T1 liégeois, puisqu'à l'occasion du Classico qui s'est déroulé hier à Sclessin face à Anderlecht, ben j'aurais bien aimé être dans le vestiaire pour savoir ce qu'il a dit à ses joueurs, parce qu'il a dû avoir, il a dû leur délivrer un discours de premier ordre pour leur permettre de remonter au score et de leur remonter le moral d'abord, et de les pousser à croire qu'ils pouvaient retourner la situation. Je vous rappelle qu'à la pause, je vous le rappelle si vous l'avez vu, je vous l'apprends si vous ne le saviez pas, le Standard était mené 0-2. Et ils sont rentrés donc au vestiaire sur ce score, et ils sont revenus transfigurés, les Liégeois, ils sont rapidement revenus au score, et ils l'ont même emporté en marquant 3 buts en 15 minutes, et score final 3-2. Je vois Alex que t'as un petit sourire à l'attention narquois, à l'attention d'Henri.
J'avais ce petit sourire en voyant le résultat hier soir.
on va en parler. Mais au niveau donc management,
on peut enchaîner.
Voilà, non, mais je voulais donc, pour finir sur Karl Hufkens, je pense qu'au niveau management, il a fait vraiment, on peut pas faire bien mieux. Il y a toujours le verre à moitié vide, à moitié plein. Quand les joueurs, quand on dit d'un coach qu'il a fait un bon coaching, on peut aussi dire oui, mais s'il avait été si bon, il aurait mis les bons joueurs dès le début. Lui, c'est pas un changement de joueur, mais je veux dire par là que voilà, ils ont démarré par 0-2, ils finissent par l'emporter 3-2. Cette victoire, elle permet au Standard de poursuivre une série d'invincibilité qui s'étire depuis déjà 2 mois. Et c'était une défaite le 19 août face au Cercle. Ce sont donc 7 matchs sans défaite, 5 victoires de nul. Et c'est la 3e victoire consécutive. Donc chapeau à lui, chapeau à Karl Hufkens et aux Rouges pour cette très belle semaine et ce bel enchaînement.
Après, il a quand même dit, je lisais la presse flamande ce matin, il a dit « mais même à 3-0, on allait gagner ».
Bon, et ben voilà une.
Enfin, 0-3 pour l'adversaire.
Voilà un homme plein de confiance. Et ben justement, on va démarrer tout de suite par ce match. On va parler évidemment de la 11e journée de Jupiler Pro League et de ce Classico et de la victoire du Standard face à Anderlecht. Comme on vient de le dire, 3-2, un match assez fou. Hein. Les Anderlechtois ont vraiment bien débuté avec une grande vivacité. Un jeu posé qui était fait de belles passes, un beau but de Dolberg en renard.
C'est une grosse erreur défensive.
C'est vrai, mais on peut être surpris.
Comme contre Bruges, le mec il se retrouve à chaque fois au bon endroit quand la défense fait des flushes.
C'est peut-être un talent, parce que d'ailleurs le centre de Thorgan Hazard, il peut être content d'avoir un assist, hein, parce qu'il fait un centre au premier poteau qui finalement est dévié et arrive au deuxième sur un joueur qui est là. Puis un but de Dreyer très joli à l'issue d'une phase un peu cafouillée, mais avec de beaux échanges quand même entre les joueurs. L'événement du match qui va permettre de parler de ce ton belge de la semaine aussi, Léonie. Sur l'engagement, on est donc à la 25e minute. L'engagement est donné par les joueurs du Standard. La balle est très rapidement récupérée par Anderlecht, balle en profondeur, et Dreyer marque ce qui semble être le 3e but, un doublé.
Erreur de concentration des Standardmen.
Ouais.
C'est une remise en jeu.
Encore une flush énorme. Bah oui. Ils ont la balle, ils doivent aller de l'avant, ils la perdent et c'est 0-3 presque.
Mais le VAR douche les espoirs des hommes de Brian Riemer, puisque le ballon a contacté le bras de Léonie sur la récupération de balle. Alors le contact existe, hein, bel et bien, on le voit sur le ralenti. On peut et on doit s'interroger sur la pertinence du coup de sifflet. C'est pas scandaleux, parce qu'effectivement, au début de cette action qui aboutit à un but, il y a bien un bras, la balle touche bien le bras. Mais voilà, c'est un petit peu de manière forte, c'est pas un petit peu, c'est complètement de manière fortuite, puisque le ballon, je crois, touche son genou avant de rebondir sur son bras. Il a une position qui semble pas complètement folle, hein. Il a une position qu'on va qualifier de naturelle, parce qu'un joueur de foot peut pas courir avec les bras ni dans le dos, ni...
Il peut pas aller sur le vestiaire.
Non, voilà. D'ailleurs, on trouve ça tellement... Ils le savent bien, puisqu'on voit très fréquemment sur un débordement les joueurs qui mettent les mains dans le dos, parce qu'ils se disent ah, « on va dire que si le ballon vient à ma main, on va me dire que mon bras n'était pas en position naturelle ». Mais enfin, que pouvait-il faire d'autre ? Et c'est cette question d'interprétation qui a conduit l'arbitre à annuler ce but, Henri.
D'abord, le VAR intervient et demande à l'arbitre qui n'avait rien vu
oui, d'ailleurs,
d'aller voir...
Personne
ne comprenait pourquoi il allait voir le...
Ouais, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, je crois que sur les images, on ne voit pas un seul liégeois. Oui, il y a un standardman qui, à un moment, lève le bras, mais je me demande si ce n'est pas parce qu'il essaye de convaincre l'arbitre qu'il y a hors-jeu sur la passe en profondeur pour Dreyer.
C'est pas clair.
C'est pas clair, mais enfin, ça n'a pas l'air de...
Mais le règlement n'est pas clair, mais si c'est règlement, c'est règlement. Mais qu'on nous précise, parce que...
Et puis surtout, qu'on le précise, c'est une chose, mais qu'on l'applique parfois, qu'on l'applique tout le temps de la même manière.
Ou il y a d'interprétation, ou il n'y a pas d'interprétation. C'est comme avec l'hors-jeu, on trace les lignes, s'il est hors-jeu, il n'y a pas d'interprétation. Si on dit que maintenant, dès qu'on touche la balle de la main, il y a faute de main, ben, ok, c'est comme ça, c'est une nouvelle règle, mais... Et ça, on n'en est pas là, justement. Il y a encore une zone de flou sur l'intention, sur le fait qu'on agrandit la surface du corps, si il touche une partie du corps avant de toucher.
Avant, oui, ça paraît vraiment en plus, de manière fortuite, c'est le terme employé, le terme consacré.
On se pose la question en dehors du micro, c'est est-ce que ça réoriente le ballon, la course du ballon. Est-ce que ça lui met le ballon dans la course ?
Ça modifie forcément l'action parce que...
Donc alors c'est une influence.
Moi j'ai l'impression, oui, ça. C'est pas scandaleux non plus parce que j'ai l'impression que s'il a pas son bras là, et si le ballon, il va peut-être être récupéré parce que je crois qu'il y a un de ses coéquipiers qui est pas très loin, mais la fluidité, l'enchaînement dans l'action se fait différemment et Dreyer se retrouve peut-être pas devant le but. Mais ça c'est vraiment... C'est lire
dans la boule de cristal.
Dans la boule de cristal, mais oui, après, c'est ennuyeux.
Ce qu'il y a, évidemment, quand on connaît le scénario, la suite du scénario,
c'est vrai.
Une dimension assez importante.
Alors, Oufkens avait l'air, comme tu le dis, de toute façon convaincu que même à 3-0, son équipe allait l'emporter.
Ce qui me surprend aussi, puisque l'année passée à Bruges, je ne l'ai pas vu renverser un match.
Mais
justement. Je pense qu'il y a un facteur autre lors de ce match qui a son influence, et c'est le public.
Ouais.
Clairement.
Qui n'a pas commencé à siffler ou à s'énerver dans tous les sens, ou peut-être un tout petit peu, mais qui a continué à encourager l'équipe. Et là, une fois que le 1-2 tombe, là, tout le monde hurle, saute, met le feu au stade. Et c'est ça qui leur
déjà,
donne des ailes.
Déjà l'annulation du goal, hein, tu vois, le stade qui explose.
Ouais. Oui, j'avais lu sur le Twitter de Sportimize aussi, avec des quelques fans d'Anderlecht qui écrivaient que le standard, c'est comme s'il a gagné la Coupe du Monde quand le but avait été annulé et que ça sentait la grosse raclée. Ce tweet avait disparu peu après, donc s'il nous écoute, mon ami, je le salue.
Mais ils n'ont pas si mal démarré le match. D'ailleurs, ils sont menés 2-0-2. Je ne vais pas dire contre le cours du match, mais voilà, il y a des erreurs, mais ils ont eu des opportunités. D'ailleurs, Schmeichel... Et son embonpoint, parce qu'on a vu les images, il est soit le maillot est beaucoup trop serré, soit enfin le maillot est trop serré, mais pour quelle raison, on s'en doute un peu. Il a fait une ou deux belles parades qui ont laissé Anderlecht dans le match tout de suite. Mais voilà, 0-2, ça paraissait un peu lourd. 0-3, ça aurait été vraiment très lourd. Mais ils ont commencé à retourner un petit peu les choses en fin de mi-temps, et c'est surtout au retour des vestiaires, quand ils sont remontés sur la pelouse, qu'ils ont renversé ce match, et très rapidement.
C'était tout ou rien à ce moment-là,
ouais,
aussi.
C'est ça. Côté du Standard, quels sont les joueurs qui vous ont un petit peu...
Aldaté.
Ouais.
Clairement,
ouais, c'est ça, hein,
il influence le jeu.
Sur le club. Parce qu'on voyait très bien en début de saison, ils étaient à la ramasse totale. Et une fois qu'il y a eu les trois transferts, Alzate, les Japonais, Genepo, encore un autre, enfin quatre ailleurs, c'était une métamorphose et ils n'ont plus perdu depuis.
Ouais.
Donc il manquait vraiment cruellement de qualité. Mais un petit top à N'Goy aussi, qui est un très jeune joueur et qui tire vraiment son épingle du jeu, peut-être. Mais en tous les cas, qui est excellent. Et bon, contre Bruges, il avait déjà été. Et ici, contre Anderlecht, son but, waouh.
Wow. Ouais.
Alors pour le but... Il y a quand même encore notre ami Sardella qui remet dans l'axe.
La remise dans l'axe...
C'est pas tout à fait de sa faute, mais c'est quand même lui chaque fois.
Ouais, c'est ça. C'est quand il y a une quand ça tourne mal, c'est sur lui que ça c'est lui qui en est. C'est comme un peu, c'était Mekele l'année dernière, ou c'était Enzo qui il y a deux ans à Bruges, qui à chaque fois qu'il y avait une bourde, c'était lui qui en était l'auteur. Je tourne pas le couteau dans la plaie. Il y avait aussi Boyata.
Non, mais Boyata, c'est dès qu'il regarde, dès qu'il est là, il y a une catastrophe. Hein, c'est...
Le Harry Maguire.
Pire.
Oui, c'est vrai que.
Comme quoi, c'est un exemple que tu as pris l'entraîneur comme belge à la semaine. Clairement, c'est au mental que ça s'est joué. Il n'est pas sur le terrain. La différence entre ce qu'on a vu en première mi-temps et en deuxième mi-temps, c'est au mental. C'est les mêmes joueurs ou quelques-uns.
Oui, c'est vrai. Parce que ça, c'est effectivement.
Ce qui ne réussissait pas au premier mi-temps, le réussissait en deuxième. Des simples passes, des débordements.
Oui, non, ça fait partie du boulot de l'entraîneur d'essayer de remotiver ses joueurs, mais c'est toujours compliqué. Alors, la mi-temps, ça permet justement d'asseoir les joueurs et de un petit peu de leur vider la tête. Mais oui, il n'y a pas eu de changement. J'étais en train de vérifier. Il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. Donc, ils sont revenus vraiment ils ont marqué les trois buts avec les mêmes joueurs. On parlait avec Henri avant le début de l'émission d'un fameux Blaise, si tu nous écoutes, tu t'en souviendras peut-être, d'un fameux Marseille-Montpellier où il était pas né peut-être. Ouais. Montpellier menait 0-4 à la mi-temps, Marseille a fini par l'emporter 5-4 et il y a une délicieuse image où on voit Roland Courbis revenir sur le terrain et croiser Nicolas, le président de Montpellier.
Courbis, entraîneur de Marseille à l'époque.
Hein. Entraîneur de Marseille, il avait été entraîneur de Montpellier avant, il le sera après, et il lui avait dit on va gagner 5-4, et l'autre lui avait dit alors toi, t'as vraiment une grosse paire de jeux, voilà, et en disant il n'y a que toi qui peux le dire, t'es le seul à capable de le faire, et il l'avait fait. Et je crois que Courbis avait dit j'avais rien dit. En fait, j'avais quasiment rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire. Donc peut-être Koufkens a fait pareil. Peut-être qu'il l'a au contraire appuyé sur les...
Koufkens, il dit qu'à la mi-temps, les joueurs eux-mêmes n'étaient pas contents. Ouais. Ils étaient contents de leur réaction collective sans qu'ils interviennent.
Kawabe, vous en avez pensé quoi donc le joueur japonais qui a été recruté, dixième match de deux buts déjà.
Il a créé des sushis à Anderlecht.
Oh là là.
Oh là là là.
On est
Je ferai pas mieux.
Ouais, je passe. non, mais c'est vrai que les trois buteurs ont été très bons. Alzate, Kawabe et Nathan Ngoy.
Mais Kawabe incarne parfaitement cette mentalité japonaise aussi. C'est ça qui manque à Bruges. Peut-être qu'on y reviendra. Cette envie d'aller de l'avant.
Abnégation.
Cette
travail,
abnégation. Ouais. Ce travail, se mouiller le maillot, ne jamais lâcher quoi que ce soit et abandonner, c'est ça qui fait, ça incarne le standard et c'est grâce à ça qu'ils reviennent, grâce au public qui est derrière et qui y croit aussi. Et de l'autre côté, t'as Bruges qui sont pires que des paillassons, capables de même se créer une occasion à Courtrai.
Bruges est quatrième, non?
Oula.
Peu importe où est-ce qu'ils sont, ils jouent comme des pieds depuis le match retour contre Sassouli.
Un instant, chaque chose en son temps. Bon, pour Henri, en tant que supporter anderlechtois, il y a la déception évidemment, mais est-ce que.
Tu mets deux goals à ce que c'est, c'est pas mal.
C'est pas mal. Tu perds 3 à
0. En tout cas, sur les réseaux sociaux, le coaching est mis en.
Brian Rimmer.
Pas en exergue, mais plutôt mis sur la sellette.
Et pointé du doigt. Est-ce que, d'un autre côté...
Le bilan est très positif, c'est deux défaites, une à Sclessin qui n'est jamais une honte, et une contre l'Union qui n'est pas un scandale non plus.
Il ne faut pas se jeter le bébé avec l'eau du bain. Anderlecht est toujours est deuxième.
Le supporter d'Anderlecht est exigeant. Il veut du show, il veut du football champagne, il veut des résultats, il veut des goals, il veut des vedettes.
Après les 5 dernières années, je me contenterai déjà d'une victoire.
C'est ça, une deuxième place, c'est plutôt bien après 11 journées. La prochaine rencontre pour les Mauves, c'est au HL samedi prochain, samedi soir à 20h45.
Il est content, je pense.
Voilà, et le Standard, lui, se déplacera justement à la Gantoise. On va parler un instant du leader.
Traditionnellement, ouais. OHL donne énormément de fil à retordre aux Mauves.
Ouais.
Surtout à Bruxelles.
Et OHL, ils jouent pas mal, mais ils sont pas là.
Ils ont viré l'entraîneur pendant.
Ouais, ça va faire du changement. Et voilà, Anderlecht de rebondir à domicile face à OHL. L'Union Saint-Gilloise, 4 buts à 1 vendredi. Les semaines passent.
Ils n'ont pas eu de pénalty pour une fois.
pour une fois, à Moura, on reparlera de pénalty quand on abordera Bruges, ne t'inquiète pas. ils l'ont emporté 4-1. Il n'y a pas grand chose à en dire, mais on va quand même souligner qu'au classement, ils occupent la première place, 25 points. Ils profitent de la défaite donc d'Anderlecht, mais de la défaite également de la Gantoise qui s'est fait battre, surprendre, je pense, une vraie surprise, mais par le Cercle. Ils ont perdu 1-0. Le Cercle qui est quatrième.
J'ai dit, les Brugeois sont quatrième.
Exactement. Bien vu. Les Brugeois sont quatrième. Et donc, l'Union, on sait que de toute façon, il reste encore beaucoup de matchs qu'on divisera par deux. Donc, voilà. Ils ont leurs petits 4 points d'avance sur leurs voisins.
L'Antwerp piétine aussi.
L'Antwerp sixième. Mais on va parler du club de Bruges, puisque tu es là, Alex. On en profite pour faire un coucou à Didier. Le club de Bruges, je disais une bêtise, la Gantoise a été battue 2-0 par le Cercle. C'est le club de Bruges qui a été défait 1-0 par Courtrai. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Plus mauvaise équipe de la Pro League depuis 3 ans, Courtrai. Ils ont gagné 3 de leurs 20 derniers matchs.
Alors je ne sais pas si ça change rien de toute façon et ça soulage, je ne sais pas. Il y a eu deux fois les montants qui ont été touchés, mais deux fois, quand je dis il n'y a pas de chance, c'est-à-dire qu'à la base les frappes sont cadrées, mais elles sont détournées, ce sont des arrêts du gardien. Bruges aurait pu avoir un peu plus de chance, c'est-à-dire que le gardien la détourne, mais la rentre dans le but quand même. Il se trouve que ça
le gardien pas arrivé. Fait son travail. Tu tires sur les montants, c'est-à-dire que tu mets une pression sur l'adversaire. Donc cette pression doit enfler, comme dans le foot qu'on connaît des années 90, même 2000, ta pression doit enfler. Tu dois prendre ton adversaire à la gorge et tu dois continuer à avoir envie de marquer ce but jusqu'à ce que tu le marques. De préférence, après, tu marques même le deuxième. Certainement face à des équipes comme Courtrai qui ont 3 pieds gauche. Et là, Bruges, il tape le montant. Et de nouveau, c'est tranquillou, on prend un transat, un cocktail, on se met au bord du terrain, on regarde l'adversaire marqué. Et ça, c'est leur grand problème. Il n'y a pas cette envie d'aller de l'avant, il n'y a pas cette envie de mouiller le maillot, il n'y a pas cette envie de gagner un match. Ce club est malade à l'intérieur, dans son vestiaire. Et j'ai déjà préconisé même un changement d'entraîneur. Ça ne l'a fait qu'à très court terme, puisque depuis Osasuna, je l'ai dit il y a 2 semaines, depuis Osasuna, les joueurs sont dans ont cette même maladie mentale de « Oh, on est Bruges, on est confiance. Bien payé ». On s'en fout, on va de toute façon gagner, quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas le cas. C'est le pire début de saison pour Bruges en 40 ans.
Waouh.
C'était un peu le cas il y a quelques saisons. Donc je pense qu'ils ont...
Mais c'était jamais aussi grave. Hein.
Non, ils ont gardé, mais ça marchait.
Oui, non, non.
Ils avaient l'impression de gagner. Ils disent, c'est pas grave, on va prendre le temps, on va gagner. Ils gagnaient.
C'était différent. Disons qu'il y a 10 ans, tu avais des Almebach, des Ugly, des joueurs moyens. Même avant ça, tu as eu des Valgaren, des Birger Martens, etc. Ces joueurs ne savaient pas jouer au foot, ou très peu, mais ils avaient envie. Donc, à domicile contre des plus petites équipes, ils avaient envie, ils se donnaient à 200% et ils gagnaient des matchs. Et alors, tu perdais à Lokeren, tu perdais au Standard, tu perdais à Genk, tu perdais à Charleroi, tu perdais tes matchs à l'extérieur parce que c'était plus compliqué, mais au moins, tu te donnais. Là, ils ne se donnent pas, ni à domicile, ni à l'extérieur. C'est pas par hasard. On parle de 40 ans, et c'est pas la faute de Deyla, en tout cas, c'est pas... uniquement la faute de Deyla. Je pense qu'il a fait de l'excellent travail en début de saison. Et en fait, le match contre Osasuna, ce 2-2, ça leur fait plus de tort que de bien.
Et ça fait 5 matchs sans victoire. La dernière victoire, elle date du 16 septembre. Alors, il y avait le match à rattraper, puisqu'il y avait eu un aménagement du calendrier où ils ont fait match nul. Ils avaient fait également match nul avant ça face à Anderlecht. Ils ont fait match nul donc face à Genk. Ensuite, un troisième match nul, 1-partout face à Saint-Trond. Et là, 2 défaites de suite, à Sclessin face au club, face au Standard et à Courtrai.
T'as perdu à Gans aussi. Hein.
Et donc, nous voilà avec 3 défaites, 4 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 16 points, 9 points de retard sur l'Union. On sait qu'on va diviser par 2, on sait que c'est pas fini, mais voilà, pour l'instant, ils sont aux portes du top 6, juste derrière l'Antwerp, le champion. Et comme tu le disais, c'est le moins bon début de championnat depuis 40 ans. C'est vrai que ça peut commencer à être interpellant. Et toi, basculer sans pas être capable d'avoir le ressort nécessaire pour retourner la situation. Techniquement, ce sont d'excellents joueurs, mais c'est quoi, la moelle de ces joueurs ou l'entraîneur qui n'est pas assez... l'embourgeoisement, comme Rocky dans Rocky 3.
Non, il n'y a pas que...
Enfin, il y a un buteur.
Dans un club de foot, tu as mille et une variables qui influencent positivement ou négativement ton sportif. Il y a l'aspect mentalité, pour moi, qui est problématique à Bruges. Il y a un... C'est général, je trouve, dans le club, qu'il y a une suffisance. Et depuis quelques mois, il y a la vente ou la revente du club qui est sur table.
Et tu crois que ça, c'est de nature à perturber les joueurs ou l'entraîneur? Parce que l'entraîneur, lui, vient de signer, il est dans sa mission sportive.
Mais les joueurs doivent aussi être dans leur mission sportive. Les joueurs doivent être dans leur mission. On se donne à 200% pour le club, pour soi-même, pour les supporters, pour peu importe qui ou quoi. C'est le joueur, c'est tout ce qu'il a à faire, c'est tout ce qu'on demande de lui, quoi. Mais ici, je pense que tu as une influence quelque part aussi, top-down, qui influence ou qui peut perturber un tout petit peu mentalement. Je ne sais pas comment ça se passe au Belfius Base Camp, mais je me demande en interne, il doit y avoir quelque chose aussi. Il y a quelque chose de mentalité qui s'est installé sous Clément déjà dans les joueurs. Et pour moi, oui, tu rigoles. Mais
non, parce que c'est Clément, c'est ton...
c'est la stricte vérité. Des entraîneurs, tu avais Michel Prudhomme, tu avais Ivan Leko, les joueurs, ils couraient plus que ce qu'ils devaient.
Ouais,
depuis que Ivan Leko n'est plus là, la première année sous Clément, ils avaient encore les restes d'Ivan Leko, et après, c'est la bérésina.
Ah, mais je te posais la question de savoir si l'entourage, enfin, pas l'entourage, pas en tant que joueur, mais enfin, si l'environnement plutôt du club, et notamment d'une vente, d'une revente, pouvait influer. Je pense que je regarde du côté de l'autre côté de la frontière en France, où bien sûr Lyon a été vendu, et c'est, tu disais que Bruges fait le moins bon départ depuis 40 ans. J'ai pas regardé exactement depuis quand, mais Lyon a 3 points. 10 journées, je crois, 3 points. C'est scandaleux. Ils ont déjà changé d'entraîneur et ils ont des joueurs qui tiennent la route, hein, pour la plupart. Donc effectivement, il doit y avoir une influence. Les coulisses doivent peut-être, ne doivent pas aider, en tout cas.
Pour moi, Lyon, avec l'équipe qu'ils ont, ça, c'est tout à fait un autre sujet, mais top 8 est déjà un miracle. De là à être dernier, c'est très chaud, on est d'accord. Mais il suffit de regarder un tout petit peu plus vers le nord aussi pour voir qui est avant-dernier en Hollande.
Hein. Ouais, l'Ajax, et le match a encore été arrêté. Ils vont être dans les tout derniers instants. Ça fait combien de matchs que... Mais enfin, on comprend qu'une institution comme l'Ajax...
On dirait Anderlecht il y a quelques années.
Ouais. On va fermer cette page...
Juste une phase avec... Avec Mignolet, quand même.
Mignolet, c'est vrai que sur le match de Bruges...
C'est pas pour bâcher, mais...
Alors moi, je suis pas complètement... Donc pour expliquer à nos auditeurs, une balle en profondeur, Mignolet décide de sortir, il intervient au pied, il loupe le ballon, il attrape le joueur avec lui. Il y a faute, c'est l'entrée de la surface. C'est spectaculaire, il blesse pas le joueur, mais c'est spectaculaire, l'arbitre sort un carton jaune. On peut s'attendre, en fait c'est ça, c'est dans ce genre de cas, on s'attend à ce que quand un gardien fait faute sur un joueur, c'est un rouge. Mais il se trouve qu'il y a des joueurs de Bruges qui reviennent, donc est-ce que c'est pas vraiment le dernier défenseur? Est-ce qu'il a nié vraiment une...
Non mais il a eu
un
goal.
Oui, mais...
Toujours cette interprétation qui était...
Toi, tu aurais donné le rouge? Ouais.
Je pense.
Alex?
C'est pas un scandale s'il prend le rouge.
Non, c'est pas un scandale non plus, mais voilà. Après,
c'est pas un scandale s'il prend en rouge, mais il y a encore d'autres défenseurs autour.
C'est ça.
Qui n'arrêtent pas directement un joueur dans sa course vers le but.
Oui, et puis il intervient mal,
c'est
en
la
fait.
Bonne, c'est la bonne décision, même si ça paraît un peu spectaculaire.
Il intervient pas très bien, parce qu'il doit même pas sortir, parce que je pense que les défenseurs sont aptes à au moins le gêner. Il y a autre chose à faire. Enfin bon, ben voilà, on ferme ici la page Jupiler Pro League. L'Union est en tête, Anderlecht 2e, la Gantoise 3e, Bruges met le cercle 4e, Genk 5e et l'Antwerp 6e, 7e. Le club de Bruges est bien sûr le Standard qui fait sa remontée, 8e, Charleroi est 9e, à 4 points seulement du top 6. On va passer maintenant à la Minute Sportivise. Alors Alex, tu nous as mis l'eau à la bouche en nous parlant de maillot. De quoi s'agit-il? De maillot romain.
Tout à fait. On va aller à Rome. Et à Rome, forcément, il y a deux grands clubs. L'AS Roma de notre ami Lukaku et la Lazio Roma que j'ai visité il y a un bon mois et demi en Champions League. Toujours est-il que ces deux clubs, en début de saison, si vous vous en souvenez, ils n'avaient aucun sponsor. La Lazio avait un maillot neutre, sans sponsor, et l'AS Roma avait décidé de mettre les lettres...
SPQR.
Tout à fait, SPQR, qui est donc un symbole de la ville et qui signifie le Sénat et le peuple romain. Mais il y a peu, l'AS Roma a trouvé un sponsor en Arabie Saoudite qui est personne d'autre que Riyadh Season. Donc, c'est de l'événementiel pour promouvoir l'Arabie Saoudite. C'est géré par le roi, le prince local. Et eux deviennent donc sponsors de l'AS Roma pour quelques millions par an. Donc, c'est très intéressant et très lucratif. Sauf que l'AS Roma n'avait pas calculé un coup là-dedans. C'est qu'en fait, Riyad se bat avec Rome pour organiser l'Expo 2030.
Ah.
Et donc, la municipalité de Rome n'a pas tellement apprécié ce move, même si l'AS Roma dit de ne rien savoir. Et du coup, la Lazio a trouvé un sponsor. Et ce sponsor, c'est Roma Italia Expo 2030.
Bien vu, bien joué.
Donc, comme quoi, cette affaire de sponsoring, tu passes de deux clubs sans sponsor à une lutte encore plus féroce à Rome pour l'Expo 2030.
Incroyable.
C'est bien joué. Après, est-ce que au niveau montant, ils s'y retrouvent aussi, la Lazio, mais enfin, en tout cas, ils sont bien en phase avec leur identité romaine, italienne.
Ils s'y retrouvent quand tu passes de zéro sponsor budgétisée pour ta saison à un sponsor. Même s'ils donnent 1 million ou quelques centaines de milliers d'euros, c'est toujours ça de prix.
J'ai vu, moi, concernant les maillots, et je pense que tu es au courant parce que je crois que j'ai vu ça sur la page Sportimize, un maillot barcelonais qui a été floqué d'une grande bouche avec une langue qui est bien sûr le symbole des Rolling Stones.
J'en parle la semaine prochaine.
Aïe, aïe, aïe. Voilà, j'ai fait le teasing pour tous ceux qui voudront bien nous écouter la semaine prochaine. Et c'est vrai que tu nous parles régulièrement des maillots uniques, ou en tout cas des collaborations qui se retrouvent sur des maillots. Et c'est vrai que ça donne parfois de très chouettes résultats et ça permet de faire parler des clubs en question. Et ben, merci beaucoup, Alex, pour cette minute Sportimize. Et oui, vous l'avez reconnu, cette musique. On va enchaîner tout de suite avec les Coupes d'Europe, pas uniquement la Ligue des Champions, hein, surtout si on parle club belge, ça va être malheureusement rapide, mais on va essayer, puisqu'on va jouer la troisième journée des phases de poule, de faire un petit point sur les clubs belges, leur parcours, leur classement actuel, et puis les espoirs qu'ils peuvent nourrir. On commence par la C1, l'Antwerp. On l'avait dit dès le début que la mission paraissait compliquée puisqu'il tombe sur un des monstres de la Coupe d'Europe, le Barça, et deux équipes pour le moins rompues à l'exercice de la Ligue des Champions, Porto et le Shakhtar Donetsk. On le sait, la Ligue des Champions, le premier tour de la Ligue des Champions, ça ne permet pas seulement de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais aussi, et c'est sans doute ce que visait depuis le début et ce à quoi l'Antwerp va devoir se contenter, pardon, c'est d'être versé en C3. Actuellement, ils ont 0 points, ils sont 3 points derrière le Shakhtar et Porto. Et le prochain match, c'est justement l'Antwerp contre Porto, c'est ce mercredi à domicile. Un petit pronostic, une petite idée de ce que...
S'ils montrent ce qu'ils ont montré contre le Shakhtar, bah, ils n'ont aucune chance.
Ouais,
pourtant, ils avaient bien démarré. Hein, ils menaient 2-0, si je ne dis pas de bêtises.
Donc, un peu comme Anderlecht.
Un peu comme Anderlecht. Écoute.
Ça est gratis.
Tu m'as tendu la perche.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc l'Antwerp...
Autre chose, en tout cas.
Ouais, c'est-à-dire que de toute façon, s'ils ne gagnent pas, s'ils ne marquent pas de points ici... ce sera quasiment fini même pour la troisième place puisque Porto et puis on peut penser Barça va empocher des points, le Barça en a déjà 6, Porto et le Barça auront au moins 6 points d'avance sur l'Antwerp et ce sera difficile, il y aura toujours la troisième place, mais voilà, c'est encore faisable.
Utopique de penser que l'Antwerp allait passer son tour en Champions League, mais
et d'être versé
même la troisième place nous semble très compromise quand tu mènes 2-0 et que tu perds 2-3,
ça signe déjà ton arrêt de mort. On descend d'un cran en C3. L'Union Saint-Gilloise, comme on l'a dit, cartonne en championnat. Ils sont un peu plus décevants, mais ils ont eu Ils ont eu le match, le plus gros match possible pour une équipe, quasiment, c'est se rendre à Anfield. Ils ont perdu contre Liverpool. Liverpool est en tête avec 6 points. Le deuxième, c'est le Toulouse Football Club, qui, malgré son nom, gagne. J'essaie de te... Toulouse avec 4 points. Et le troisième, c'est l'Union Saint-Gilloise, qui affronte le petit pousset de cette poule, les Polonais de LASK. LASK à domicile. Autrichien, excuse-moi. C'est le moment de marquer les points. C'est à domicile.
Il faut.
Qu'est-ce que vous avez comme... comment vous le sentez ?
Henri ?
Bien. Ouais, bien. Tu crois que le...
Je pense que c'est...
Ils sont sur une bonne...
De toute façon, ils doivent. Ils ont une quelconque ambition pour
et
la
dans
suite.
Ce groupe, justement, vous pensez qu'ils vont passer... ils vont terminer dans les deux premiers ? Ça paraît faisable, non ?
Je pense que toutes les équipes en Europe, à part l'Antwerp, doivent terminer dans les deux premiers.
Oui.
Mais c'est là, toutes les équipes belges européennes.
Oui.
Mais là, c'est vrai que par rapport à l'adversité, ils peuvent nourrir de bons espoirs, à condition, bien sûr, de marquer encore un point au minimum lors du prochain match qui aura lieu ce jeudi.
Pour le coefficient belge, toutes les équipes en C2, C3 affrontent des adversaires tout à fait pas faciles, mais en tous les cas abordables. Donc un 12 sur 12 là, cette semaine ou dans deux semaines devrait être possible. Et c'est souhaitable pour le football belge, parce que pendant ce temps, le Portugal et la Hollande, ils creusent l'écart au-dessus. Et on regarde en dessous, et là, ça se passe plus ou moins bien, mais je suis partisan de regarder vers le haut et pas vers le bas.
Tu as bien raison. On descend néanmoins vers le bas. La C4, la Conference League, la Gantoise qui va devoir jouer contre les Islandais de Breida Blikk. La Gantoise qui, pour l'instant, réussit plutôt bien puisqu'ils sont en tête avec 4 points devant Zorya et le Maccabi Tel Aviv. Le groupe va être sans doute un petit peu chaotique, justement en raison de... la situation en Israël, est-ce que les matchs vont être joués à temps ou vont être de toute façon déplacés, donc ça aura une influence forcément. Mais comme on le disait, Zorya joue également en Pologne, si je ne me trompe pas, c'est eux qui ne jouent pas à domicile. Là, la Gantoise contre le dernier, les Islandais à domicile, ça devrait être une formalité, en tout cas on leur souhaite.
Gantoise qui vient de perdre son premier match en championnat.
C'est vrai, ils étaient sur une belle série. Le club de Bruges, lui, se déplace en Suisse contre Lugano. Lugano est premier du groupe, le club deuxième. Et suivent Beşiktaş et Bodo Glimt avec un point chacun. Qu'est-ce qu'on peut espérer côté brugeois pour ce déplacement en Suisse ? C'est dans les cordes quand même des brugeois.
Quand tu perds à Courtrai, tu peux aller même perdre en Islande ou faire match nul aux îles Féroé comme Lille l'a fait.
C'est vrai. Les Lillois, bravo.
Je vois sur LiveScore en fait que Maccabi Tel Aviv Zorya se joue le samedi 25 novembre.
Ouais, wow.
Très particulier. Quand même.
Ouais, ça va du coup avoir une influence puisque on va jouer des matchs un peu
décalés.
Et on termine par Genk qui joue Ferencváros, les Hongrois. Le match se déroulera à Genk. Alors dans ces cas-là. On croit toujours que c'est facile et c'est pas facile. Ouais, je fais moi aussi du jeu de mots. Donc Genk se trouve dans la même situation que le club de Bruges, deuxième avec 4 points, Ferencváros est premier avec 4 points aussi. Là aussi ce serait une bonne occasion de prendre le large, surtout qu'il y a la Fiorentina dans ce groupe. Fiorentina qui a fait 2 matchs nuls pour l'instant et qui
Ferencváros est des habitués de la Coupe d'Europe.
Hein. Ouais. Enfin ça fait pour ceux qui
passent des tours mais sont chaque fois là.
Ils sont là, c'est vrai. Mais la Fiorentina devrait se réveiller peut-être à un moment, donc ce serait bien d'empocher les points tant que c'est faisable.
J'imagine que la Fiorentina ne va pas rester statique comme Michel-Ange, donc à un moment ils vont se qualifier. Et Genk devra devra sortir de ce groupe et à commencer par une victoire à domicile contre Ferencváros. Ça fera le plus grand bien et ça leur donnera de l'air. Donc Franchement, toutes les équipes belges doivent passer dans ces groupes. Enfin, normalement, ça fait des années complètes que les clubs belges doivent avoir des tirages plus abordables et des ligues plus faciles à jouer. Donc, si c'est pour avoir ça et ne pas se qualifier, autant qu'on arrête tout de suite.
Absolument. On passe rapidement, parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission, à la Ligue des Champions, les autres matchs, les gros matchs. Le Paris Saint-Germain reçoit l'AC Milan. Mercredi, on va voir s'ils peuvent se remettre de défaite interdite. Ils vont jouer contre Mike Maignan, formé au club. Et heureusement que ce n'est pas Olivier Giroud, parce que Olivier Giroud avait été exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a comme gros match cette semaine? Il n'y a pas d'énormes duels. Il y a le Newcastle-Dortmund, parce qu'on a... On a vu, et puis Newcastle a la chance d'enchaîner deux matchs à domicile, et dans St James Park, c'est vrai que l'ambiance est extraordinaire. Manchester United, on regardera ça toujours avec intérêt pour voir à quel moment ils vont peut-être... Harry Maguire va faire une erreur s'il est sur le terrain. Arsenal qui se déplace à Séville, le Napoli qui se déplace à Berlin, et le Real à Braga. C'est vrai que c'est pas la journée la plus excitante, je dirais, de toutes les journées de Ligue des Champions. Mais on va quand même y jouer. Et donc ça, c'est le programme de cette semaine à partir de demain.
Qui fait une heurte Lazio qui promet, mais surtout en tribune.
C'est ça, ça risque d'être un peu excité. Ça peut être très excité.
Et puis il y a le Weatico, j'ai envie de dire aussi.
Le Weatico, PSG, exactement, PSG Milan AC, puisque le George Weah, le président Weah, Ballon d'Or 1995, a commencé l'année 95 au Paris Saint-Germain et l'a terminé au Milan AC. On a été très fiers à l'époque de dire que c'était... Et en gardant le même sponsor à l'époque, c'était...
Opel,
exact. Quelle mémoire! Pour terminer, j'aimerais, comme on le fait parfois quand ça arrive, c'est malheureux, mais rendre hommage à une légende du sport, puisque Sir Bobby Robson est décédé. La légende... Bobby Charlton, j'ai dit Robson, pardon.
Robson, ça fait plus de temps. Mais lui, c'est Newcastle-Barcelone.
C'est ça. Non, Sir Bobby Charlton, effectivement, la légende de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre, milieu offensif et attaquant, qui aura été pendant très longtemps le recordman du nombre de buts marqués avec la sélection anglaise.
Champion du monde
en 66, un homme qui a une histoire incroyable puisqu'il faisait partie des Busby Babes, l'équipe de Manchester United qui va être décimé lors d'un crash aérien à Munich en 58. Il fait partie des rares rescapés. Il aura réussi à rebondir et à faire partie de l'équipe qui va renaître et qui va faire renaître Manchester. Ils vont remporter, comme vous l'avez dit, la Coupe du Monde en 1966 et la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, en 68. Il gagne le Ballon d'Or d'ailleurs en 66 et à ce titre, il fait partie des 9 joueurs seulement à avoir gagné le Ballon d'Or, la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Et donc, il nous reste 2 minutes et je vais vous interroger. Quels sont, selon vous, les 9 joueurs à avoir remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et
Beckenbauer.
Beckenbauer, je l'ai, oui.
Zidane,
oui.
Qui? Ronaldo.
Pas Ronaldo. Ni l'un ni l'autre. Ah. Mais t'es pas loin.
Ronaldinho.
Mm-hmm. Il y a un autre Allemand.
Matthäus.
Non.
Brême.
Matthäus a été à une minute de le remporter contre Manchester United. Non, un Allemand plus ancien.
Rummenig.
Non, encore un peu plus.
Gerd Müller.
Gerd Müller, ça nous fait donc Charlton, Zidane, Gerd Müller, Beckenbauer, Ronaldinho. Il y en a un qui est le plus récent.
Messi,
ça fait 6. Un Brésilien, un autre Brésilien.
Socrate.
On n'y pense jamais. On n'y pense jamais. Parce que...
Socrate.
Non.
Kaka.
Ah, oui, exactement, Kaka. Et alors, il en reste 2. Moi-même, j'en ai oublié un. mais il y en a un qui n'est pas du tout auquel vous, si vous y pensez, bravo, chapeau.
Européen.
Début des années 80.
C'est pas Papin.
C'est
champion du monde.
Il y a 2 joueurs. Voilà, il y a un Brésilien et un Italien.
C'est pas Barresi.
Maldini.
Non. C'est vraiment un Brésilien. Paolo Rossi, exactement. 1900 Ballon d'Or 82 et enfin un Brésilien qui l'a remporté juste après Zinedine Zidane, qui l'avait remporté en 98.
Pas Romario.
Non.
Bebeto non plus.
Non, ça commence par un R aussi. C'est vrai que c'est des joueurs qui ont été extraordinaires et auxquels on pense
Roberto
plus tellement.
Carlos, non,
Rivaldo. Voilà.
Il a été Ballon d'Or.
Il a été Ballon d'Or en 99. Et donc, voilà notre nos 9 joueurs qui ont remporté ces 3 prestigieuses récompenses. Bobby Charlton donc est décédé et il ne reste plus qu'un seul joueur vainqueur de la Coupe du Monde 66 en vie. C'est peut-être le plus célèbre, en tout cas pour ce qui est en Allemagne, pour ce qui est de la finale, c'est Geoff Hurst qui a marqué les 3 buts en finale, dont le but très controversé, puisque en Allemagne en tout cas on dit qu'il n'a jamais passé la ligne. En Angleterre on dit qu'on a remporté la coupe, et puis c'est déjà suffisant. comment se termine notre émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Bye.
Bonne semaine, les garçons.
Bonne soirée à tous.
Ciao, ciao.